7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, ravis de vous retrouver sur RFI. Et aujourd'hui, on s'attaque à ce qui est le plus gros tabou professionnel, le bore-out. Ils ont un travail, mais rien à faire. Ils s'ennuient et ça les mine. Comme le burn-out, c'est une forme d'épuisement professionnel. Et écoutez bien, près d'un salarié sur trois serait touché par ce syndrome d'ennui. Et vous n'en avez jamais entendu parler, c'est ce que je vous dis. C'est un vrai tabou professionnel. Alors, être payé à ne rien faire, est-ce le bon plan? Pas si sûr. Quelles sont les entreprises concernées? Pourquoi ces salariés restent-ils dans des organisations qui ne leur confient que peu de tâches? Quelles sont les conséquences sur leur vie et sur leur santé? On en parle aujourd'hui avec deux invités. Je commence avec Judith Tripart. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante dans le cabinet de recrutement Clémentine et vous êtes une ancienne victime du bore-out. Donc vous nous raconterez un peu cet enfer que vous avez vécu.
Enfer, n'exagérons pas, mais oui, je vous raconterai effectivement les conséquences que ça a pu avoir sur mon activité au quotidien.
Et comment vous vous en êtes sortie, puisque voilà. Maintenant vous avez l'air totalement épanouie
dans votre travail.
Philippe Laurent également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach en entreprise, formateur en management, spécialiste du bonheur au travail. Et vous avez même rédigé Le bonheur au travail, partition pour une fourmi aux éditions du siècle. Ça c'est votre dernier ouvrage. Et vous êtes le fondateur du cabinet Project Coaching Associé. Nous aurons au téléphone dans 5 minutes Christian Bourion, qui est professeur à l'ICN Business School. Il a creusé le sujet, il a publié un article dans une revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels. Les voisins, les voisines, si vous avez envie de vous exprimer sur le sujet, si vous connaissez l'ennui au travail, racontez-nous ou posez vos questions au 33 1 84 22 71 71 et toujours notre fil Facebook. Et d'ailleurs, les messages arrivent plutôt nombreux quand même. C'est un sujet qui suscite l'attention. Il y a Massaman à Dakar qui nous dit « Moi, je préfère être débordée de travail que de ne pas en avoir assez ». C'est son premier compte-rendu. Messian de Lomé aussi qui dit « Moi, je ne m'ennuie pas au travail, je m'ennuie quand je n'en ai pas ». Donc, il a vraiment besoin de son travail pour se distraire. Donc ça fait partie du bonheur au travail pour lui. Il lui en faut une bonne partie. Sama de Dakar aussi « Quand on fait ce qu'on aime, on ne connaît pas l'ennui. Mais quand on travaille parce qu'il le faut vraiment et pas par passion, là, on n'est pas loin du bore-out ». Continuez d'envoyer vos messages, les voisins, les voisines, d'échanger sur Facebook ou appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Imaginez, il est 9h au travail et vous n'avez rien à faire jusqu'à la pause de midi. S'ennuyer à mourir, une expression pleine de sens pour de nombreux salariés, et ça a été votre cas, Judith Tripart.
Voilà, exactement.
Racontez-nous comment ça s'est produit.
Alors en fait, j'étais dans un job où effectivement j'avais pas grand chose à faire et je pense que j'ai été employée alors que j'étais surqualifiée pour ce job. Ça peut rassurer hein, des recruteurs d'employer quelqu'un qui a un très beau parcours, une belle formation académique, des belles expériences professionnelles.
Mais le poste n'était pas à la hauteur.
Le poste était effectivement pas à la hauteur. On dit souvent qu'il peut le plus, peut le moins. Mais quand on a trop peu à faire, au bout d'un moment, on manque de stimulation. Et ce manque de stimulation génère un stress. C'est quelque chose qui est très valable pour je pense, des êtres humains, mais pour tout être dans la
nature.
Alors,
il y avait combien
de stimulation, ça génère un stress. Et après, derrière, vous n'êtes pas bien.
Et combien d'heures par jour, par exemple, vous aviez à tuer?
Honnêtement, ça pouvait aller, c'était 6-7 heures par jour.
Ah oui, donc vous n'aviez seulement qu'une ou deux heures de travail effectives.
Voilà, effectives.
Et alors comment vous combliez le vide?
Bah, je vais sur Internet, on va discuter avec des gens, je prenais des grandes pauses, j'allais à la piscine, je faisais du sport, j'essayais de me motiver autrement, j'essayais de me donner des petits projets, j'avais des projets personnels, je cherchais un logement, je faisais des choses, je jouais à des jeux en ligne, enfin je m'amusais comme je pouvais, et puis au bout d'un moment...
Mais personne ne s'apercevait de cette situation?
Ah si, parce que j'alertais, je disais que je m'ennuyais, alors on me donnait des tâches qui n'étaient pas forcément très intéressantes non plus et surtout qui n'avaient pas forcément une grosse valeur ajoutée en me disant bah, tu peux travailler là-dessus ou là-dessus. C'était un peu le petit truc qu'on me donnait à faire pour que le management soit déculpabilisé. Et puis j'avais alerté Et puis quand vous avez pas, quand vous avez des entreprises où les règles de mobilité sont très strictes et on vous dit ben normalement il faut rester dans ton poste 2-3 ans avant de pouvoir bouger, et c'est le cas dans les grandes entreprises, c'est le cas aussi dans certaines administrations où vous avez des règles qui sont très strictes et donc très peu de flexibilité sur la mobilité et du coup qui vous contraignent à rester dans votre poste.
Mais on vous disait de vous taire, d'attendre votre tour. Qu'est-ce que vous disait votre hiérarchie?
Oui, voilà. On vous endort un peu en disant bon ben voilà, fais ça, tu peux faire telle tâche en attendant. Et puis pour l'instant, il y a rien. Mais dans 6 mois, on en reparlera. Et puis voilà. Et puis seulement en fait, c'est des sujets qui sont pas évidents parce qu'en plus vous dire que vous ennuyez, ça envoie un message assez négatif. Donc vous le dites une fois, vous le dites deux fois, mais vous n'avez pas non plus envie de vous retrouver comme la personne à éjecter. Il y a quand même ce risque-là aussi.
Mais les collègues, ils vous regardaient comment? Vous étiez la seule à pas trouver.
Mais non, vous faites semblant. C'est justement le cas. La plupart des gens qui sont en burn-out, vous êtes obligé de donner un masque de la personne qui, malgré tout, a du travail. Donc vous faites semblant. Vous êtes derrière votre ordinateur quand quelqu'un arrive derrière vous. Vous partez de Facebook et puis vous remettez sur un mail et puis voilà. Et puis au final, votre efficacité, elle change pas réellement parce que vous faites toujours le boulot. Ça change pas. Mais vous, au fond de vous, vous sentez pas utile, vous sentez mal. Et puis finalement, vous commencez à avoir des syndromes de stress. Vous commencez à vous sentir très fatigué. Avec plus l'envie de se lever le matin, beaucoup de détresse aussi psychologique, des pleurs. Moi, au boulot le matin, je pleurais. Je reviens le soir, je pleurais. J'avais l'impression de pas du tout être stimulée intellectuellement. Je me disais que je valais rien. Alors qu'en plus, j'avais des jobs qui, objectivement, sur le CV, étaient très beaux. Hein. J'ai des très beaux jobs qui sur le marché du travail, on me dit c'est super, c'est un super job. Et moi je disais mais non,
c'était une coquille vide.
C'est une coquille vide, exactement, coquille vide.
Et est-ce que vous aviez aussi la sensation, par exemple, de ne pas mériter votre salaire?
Exactement. Ouais. J'avais un peu l'impression d'être une imposteuse et de ne pas mériter mon salaire.
Ouais. Et alors quelles conséquences ça a eu sur votre vie?
Des conséquences plutôt négatives, puisque derrière ça vous met dans une espèce de pseudo-dépression, de déprime en tout cas, une déprime qui peut dériver en dépression, et vous avez besoin d'un petit accompagnement médical, de parler de ça, et puis si vous n'avez pas le soutien non plus personnel, moi j'avais de la chance d'avoir un soutien personnel avec des proches qui comprenaient, un compagnon qui comprenait, et c'est pas forcément le cas toujours. Donc voilà, mais après aussi ce que je disais à monsieur tout à l'heure quand on discutait avant l'émission, c'est que je pense que j'avais une force intérieure, une espèce d'instinct de survie qui me poussait à vouloir aller chercher ailleurs. Et j'avais aussi une situation qui était très avantageuse puisque je n'avais pas de problèmes financiers, j'avais pas de contraintes dans ma vie personnelle qui m'empêchaient d'aller chercher, de me mettre en risque pour chercher un job.
Et vous avez mis combien de temps pour vous sortir de cette situation? Vous avez vécu comment avec ce burn-out?
J'ai mis 6 mois pour retrouver un autre boulot. J'ai passé 40 entretiens en 6 mois, ce qui est aussi un autre problème parce que c'est extrêmement épuisant. Passer des entretiens. Et ce qu'on dit aussi avec monsieur tout à l'heure, c'est que c'est hyper consommateur d'énergie de passer un entretien. Vous pouvez pas annoncer votre situation.
Vous n'osiez pas dire dans votre charge d'emploi que vous...
L'entretien de recrutement est un exercice très formel où on vous conseille d'ailleurs, même si c'était pas très bien passé dans votre job précédent, de ne jamais critiquer votre employeur précédent, de ne pas critiquer la staff, d'être très positif, très enthousiaste, et puis vous partez toujours pour des raisons parce que vous avez envie d'évoluer. C'est ça que les recruteurs...
Vous restiez effectivement dans ce discours-là, vous n'évoquiez pas la vraie situation qui vous poussait à quitter votre entreprise.
Il me manque des challenges. Mais au fond, vous n'allez pas dire non, je joue toute la journée, ou je regarde Météo toute la journée, et je suis complètement déprimée. Ça, vous ne pouvez pas le dire.
Alors, Philippe Laurent, vous êtes spécialiste du bonheur au travail. Quand vous entendez le témoignage de Judith Tripart, vous en entendez beaucoup des témoignages comme ça dans votre travail de coach?
En fait, quand j'accompagne des gens, la plupart du temps, c'est plutôt des gens qui sont débordés que des gens qui s'ennuient. Et il faut arriver justement à leur faire trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et l'ennui, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui s'ennuie, je suis d'autant plus concerné que pour moi la question de l'ennui, c'est vraiment un grand ennemi du bonheur au travail, parce que le bonheur au travail pour moi réside dans deux conditions. La première, c'est la dynamique de projet, et la deuxième, c'est de prendre du plaisir dans la relation à l'autre, que cet autre soit d'ailleurs la matière que l'on transforme ou que ce soit les gens avec lesquels je travaille. Et l'ennui est précisément cette perte de dynamique de projet.
Et le syndrome d'épuisement au travail, comme on l'appelle, ou le bore-out, en quoi en fait c'est stressant?
Je pense que le bore-out est stressant dans la mesure où on a le sentiment de tourner en rond, de ne pas ne pas savoir ce que l'on doit faire et surtout de perdre du sens à ce qu'on fait et le sens aux trois dimensions, aux trois sens du mot sens.
C'est-à-dire,
Le sens dans le sens de la direction. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille mais je ne sais pas pourquoi. OK? Le sens dans le sens de la signification. C'est-à-dire je travaille mais sans que j'apporte du sens, sans que je voie le sens de ce que je fais, sans avoir de l'intérêt pour ce que je fais, sans savoir que ce que je fais est utile. Voilà. Et puis le troisième sens du mot sens, c'est le sens du goût. C'est-à-dire, je travaille, mais sans goût pour ce que je fais. Et moi, en tant que coach, ce que je fais vis-à-vis des managers ou des personnes qui sont managées, c'est que j'aide le manager à donner du sens, à donner du pourquoi, à donner aussi de la signification au travail qui est effectué par l'équipe. Et j'aide les gens également à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui donne du goût à leur travail? Qu'est-ce qui les rend heureux dans leur travail? Et en fait, le stress vient, pour moi, du fait que quand je suis ennuyé, quand je suis dans l'ennui, le temps passe et je suis triste de voir le temps passer. En fait, le temps devient mon ennemi numéro un.
C'est pour ça qu'on parle de tuer le temps. Alors, on va continuer sur l'ennui au travail. On écoute tout de suite « Oh oui, je t'aime » de Nash. C'est la sœur de Mathieu Chédid et ce n'est pas une chanson d'amour.
Les bagnoles gueulent, les gens se pressent, suffoquant seul, je dois m'en aller. Les trottoirs bougent, le ciel s'effondre, tous les feux sont rouges. Laissez-moi passer, effluve de clope, parfum de bitume, me saisit, me révolte. Oh, je peux plus respirer, une ambiance louche, dans nos métros.
Vous ennuyez-vous au travail, les voisins, les voisines? C'est le sujet aujourd'hui de 7 milliards de voisins. Nous avons tout de suite Christian Bourion, qui est professeur à l'ICN Business School et rédacteur en chef de RIPCO. C'est la revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels. Et Christian Bourion est avec nous au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'un des premiers chercheurs à avoir alerté sur ce phénomène. Pourtant, c'est pas franchement désagréable de glander. Il y en a qui aiment ça, même au travail.
Ben, c'est l'impression que ça peut donner, si vous voulez. Mais dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y avait toute une souffrance qui n'était pas petite. Parce qu'en fait, les gens ont honte. C'est aussi simple que ça. Ils disent quoi? Mais j'ai un travail, j'ai un boulot, j'ai un bon salaire. Et j'ai rien à faire et je souffre. Mais quel bonhomme je dois être pour souffrir alors que j'ai un excellent salaire. Je pense à tous ces chômeurs qui, dans les situations, qui n'ont pas d'emploi, d'accord, ils ont un revenu.
Donc c'est pas politiquement correct, en fait, de dire qu'on est payé à rien faire.
C'est ça. Et ça a fini par ressortir un petit peu. Ben, je crois que c'est beaucoup, beaucoup Internet et les relais de chat qui ont aidé ça, quoi. Les gens qui précisément s'embêtaient sont allés sur les relais de chat et ont dit, mais écoutez, ça va pas du tout. Moi, je m'embête au travail, pour pas dire un gros mot.
Ouais. Mais quand on s'ennuie au travail, comme vous l'avez étudié de près, on peut estimer qu'on est concerné par le bore-out à partir de combien? De 2 heures à tuer par jour?
Oui, c'est ça. Je pense que, enfin les chiffres que j'ai pu avoir, c'est quand on a en dessous de 2 heures de travail par jour. Mais j'ai trouvé des cas où les gens prétendaient qu'ils travaillaient 5 minutes par jour.
Et puis alors, il y a d'autres chiffres qui enfin, moi, franchement, me font arrondir les yeux. Vous avez calculé que ça toucherait 30% des salariés en Europe. Ça me paraît énorme.
On retrouve à peu près, oui. Alors, quand je suis tombé sur ces chiffres, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une erreur quelque part. Et en fait, c'est partout en Europe, on retrouve le même mécanisme. C'est, à mon avis, le signal le plus important qui montre qu'on a changé de société. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé dans une société d'après-guerre qui a permis de construire des valeurs de travail qui étaient assez phénoménales. Le travail a valorisé l'individu, le travail permettait d'exister, le travail construisait la personnalité, et puis nous faisait manger en plus. Hein. Et maintenant, on est dans une société, si vous voulez, où le salaire ne suffit plus. Il faut en plus être construit par ce qu'on apprend, par ce qu'on fait sans arrêt. Alors, à mon avis, c'est le signal le plus important du changement de société.
Mais alors, 30% des salariés en groupe, enfin, ça veut dire que là, quand je regarde autour de moi à RFI, ça veut dire qu'il y en a un sur trois, donc, qui seraient concernés, mais ils sont quand même assez invisibles.
Oui. Alors, il y a sans doute des secteurs. Hein, il y a sans doute des secteurs où le taux de 30% atteint 60-70, et d'autres secteurs où il descend à 5. 30%, c'est une espèce de moyenne. Donc, je ne sais pas RFI ce que ça donnerait. Mais globalement, c'est vrai que ça va être très très fort dans les collectivités territoriales, mais on va le trouver aussi dans les PME et dans les grandes entreprises. Alors, par contre, la différence, c'est que dans les grandes entreprises, les gens ont appris à faire semblant. Ils ont appris, ils parlent du bouton, vous savez, sur lequel vous appuyez, qui fait que quand vous êtes en train de faire des choses sur Internet et que le patron arrive derrière, automatiquement, il y a un écran qui se met en place. Il y a un apprentissage qui s'est fait, et c'est heureux, parce qu'autrement, c'est de la destruction de la personnalité. Ouais. C'est heureux, mais c'est pervers.
Ouais. Alors, vous parliez des grandes entreprises publiques, par exemple, on parlait de mise au placard dans le public, parce qu'on ne pouvait pas licencier.
Oui, ouais. Alors, c'est un phénomène qui est très ancien. Le burn-out se distingue par le fait de sa généralisation. Mais dans le public, où on ne pouvait pas licencier, on avait découvert ce truc-là depuis très longtemps. On savait que si on privait un gars, un salarié, et surtout un type qui avait des responsabilités élevées, de toute possibilité de faire quelque chose, qui ne recevait plus rien sur son bureau, qui ne recevait plus un seul coup de téléphone, qui ne recevait plus un seul courriel, on le faisait souffrir. Et c'était une méthode pour le punir.
Alors Judith Tripart, qui est avec nous, pardon, oui, elle voudrait réagir aussi à vos propos, Judith Tripart.
Oui, bonjour, bonjour monsieur. Oui, je voulais aussi rajouter une petite chose par rapport à la mise au placard que je trouve intéressante aussi, mais qui est pour moi encore plus inquiétante, puisque c'est une action volontariste du management pour stresser la personne et donc causer derrière une destruction effectivement de sa personnalité et de sa personne, et puis derrière la pousser au départ. En droit du travail, on peut aussi qualifier ça de harcèlement. Si c'est, alors évidemment, la notion de harcèlement est assez compliquée à démontrer juridiquement toujours. Mais malgré tout, ça reste des choses qui sont réprimées par la loi, très théoriquement, alors que le cas que j'avais vécu était un cas qui est beaucoup plus commun et qui concerne pour le coup effectivement beaucoup de salariés, d'ennuis dans certaines organisations, etc. Mais cette action de mise au placard, moi je trouve ça absolument effectivement effroyable. Et je pense qu'effectivement, les personnes qui avaient commencer à pratiquer ce type de d'action de management avait identifié que ça générait un stress et que ça causait un départ possible.
Pardon, c'est de la pousser dehors, c'est le but.
Oui, c'est ça. Le but, c'est de les pousser dehors.
C'est de faire partir la personne, oui.
Voilà, c'est ça.
Et alors Christian Bourion, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour en sortir, je dirais, au niveau de la société?
Au niveau purement de la société, je ne crois pas qu'il y ait de porte de sortie. Hein. Ou alors, si, il y en a une, mais c'est la modification de tout le droit du travail. On commence à en parler, hein, les médias commencent à en parler pas mal. Hein. On dit un code du travail qui a pris un embonpoint terrible, qui représente des dizaines de milliers de pages maintenant, avec tous les éléments. Et il faudrait rendre sa souplesse, parce que derrière la suppression du placard, le problème, c'est celui du licenciement qui se profile. Dans la mesure, si vous voulez, où d'une part, dans l'administration, il n'est pas possible de licencier quelqu'un, sauf pour faute grave. Mais bon, ça va être un cas sur combien. Et que dans la mesure où, d'autre part, dans le privé, le licenciement va coûter extrêmement cher. Il va amener devant les prud'hommes, où dans 70-80% de tête des cas, c'est le salarié qui gagne. Et c'est justifié, parce que comme on est obligé...
Alors Christian Bourion, il faut que je vous coupe, parce qu'on va devoir avoir le flash. Vous restez avec nous, dans la deuxième partie, on vous reprendra au téléphone. Vous êtes professeur à l'ICN Business School, et on se retrouve dans 3 minutes également avec vous, Judith Tripart, consultante dans le cabinet de recrutement Clémentine, et Philippe Laurent, coach en entreprise et fondateur du cabinet Project Coaching Associé. On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, merci de nous rejoindre sur RFI. On tourne en rond au travail, on s'ennuie au point de se rendre malade. On parle du bore-out, c'est le nouveau mot choc pour parler du syndrome d'épuisement au travail. Pire que le burn-out, et ça toucherait 30% des salariés en Europe. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les conséquences sur la vie, la santé? Et surtout, comment en sortir? On attend vos témoignages, vos questions. Osez briser le tabou de l'ennui au travail au 33 1 84 22 71 71 et sur notre page Facebook. Être payé à ne rien faire au travail, le tabou suprême. Nous sommes avec Judith Tripart, consultante dans le cabinet de recrutement Clémentine et ancienne victime du bore-out. Également avec nous Philippe Laurent, coach en entreprise et formateur en management, spécialiste du bonheur au travail. Vous avez écrit Le bonheur au travail, partition pour une fourmi aux éditions du siècle. Et vous êtes fondateur du cabinet Project Coaching Associé. Alors, ne pas avoir assez de travail pour combler ses journées, c'est le cas de plusieurs auditeurs donc qui nous appellent. On va tout de suite avoir Wirl qui nous contacte de Montevideo. On me dit qu'on les a perdus, donc tout à coup la ligne s'en va. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus concernés que d'autres? Je crois que Monsieur Bourion est aussi toujours au téléphone avec nous. Christian Bourion. On a perdu tout le monde. Voilà.
Les pays qui sont avancés, c'est-à-dire qui ont déjà fait leur développement, sont concernés. Ceux qui vont seulement faire leur développement ne sont pas concernés. Ils le seront, mais dans 20 ans ou dans 30 ans.
Et alors aujourd'hui, quels sont, par exemple, en France, est-ce que c'est plus... en Afrique, puisque c'est aussi le grand sujet dans RFI, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. En Afrique, je ne sais pas, parce que je n'ai pas étudié. J'ai travaillé uniquement donc sur l'Europe. Mais si on regarde ce qui se passe actuellement, à savoir qu'on donne le chiffre à peu près de 1000 immigrés clandestins par jour, on peut penser qu'ils ne trouvent pas de travail en Afrique comme ils le voudraient, et qu'ils viennent le chercher en Europe. Mmh. Même si, en fait, en Europe, il n'y en a plus comme autrefois.
Mmh. Alors, quels sont les secteurs touchés? C'est vrai qu'on pense surtout à la fonction publique au départ, ou les collectivités locales,
oui.
Les ministères.
La fonction publique, c'est celle où ça a commencé. C'est celle où ça a commencé. Mais maintenant, on parle de... Alors, dans la fonction publique, on parlait de placard. Mais ce placard, c'est relativement bienveillant. Parce que dans le placard, on ne menaçait pas le fonctionnaire de licenciement. Maintenant, on parle de job vacuum dans le secteur privé. C'est-à-dire, on a repris la technique du placard, mais la personne, le salarié, on va lui appliquer la technique pour qu'il s'en aille.
Mais c'est quand même une forme de reconnaissance de mise au placard. C'est une forme de reconnaissance de ce qu'il a fait avant.
Oui, si on veut. Oui, si on veut, oui. Mais bon, c'est sûr que quand un directeur général d'une très grande entreprise se retrouve dans une toute petite agence à l'autre bout du monde, ça lui fait drôle quand même. Il y a un autre terme qui est apparu aussi, c'est le terme d'essorage. C'est l'alternance entre des périodes de suractivité qui mettent le gars en burn-out, et d'un seul coup, on coupe toute activité, et il a strictement plus rien à faire. Et puis de nouveau, on recommence, on repasse en suractivité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent longtemps à ça.
C'est un système de yo-yo, effectivement, orchestré par l'organisation. Alors
je
vous restez
que
aussi...
Vous
restez avec nous en ligne, Christian Bourion. Là, on a retrouvé la ligne avec Libreville, et c'est Tatiana donc qui nous appelle de Libreville. Bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous les invités également.
Bonjour.
Bonjour. On écoute votre témoignage ou votre question.
Disons, en fait, mon témoignage, c'est... je voulais revenir sur votre première intervenante. Donc, j'ai vécu exactement la même chose dans un grand groupe à Libreville. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je ne travaille pas. Je vous avoue que j'ai beaucoup perdu confiance en moi après ce qui s'est passé dans la boîte où j'étais. Et aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me remettre sur le marché du travail. Donc, j'ai eu des postes à responsabilité. Les 4 premières années se sont très, très bien passées. J'ai évolué assez rapidement dans la société. Et puis ensuite, on m'a promis le poste de chef d'agence parce que j'étais adjointe. Ça ne s'est pas fait. Et on m'a délocalisé, enfin, on m'a changé de fonction. Et donc après, pendant 2 ans, j'ai tourné dans différents postes comme ça. Et le dernier que j'ai occupé pendant 1 an, je m'y ennuyais vraiment et j'ai signalé ça à mon chef de service qui l'a pas pris en compte. J'ai vu le DRH qui au début ne voulait pas me voir. Il ne voulait pas me rencontrer et j'ai expliqué ma situation. J'en parlais aux collègues qui me disaient que j'étais bête de me plaindre de ne pas avoir de travail alors que j'étais payée chaque fin de mois. Et le
oui, donc en fait, vous n'êtes pas du tout comprise. Vous n'étiez pas comprise du tout par vos collègues.
Ouais. ni par les collègues, ni par mon responsable direct. Et quand je suis allée voir le responsable des ressources humaines, il m'a demandé pourquoi, si je me sentais si mal, je ne démissionnais pas.
Donc c'était un moyen aussi de vous mettre dehors quelque part. C'est comme ça que vous l'aviez entendu?
Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait, parce que par la suite, on m'a enlevé les clients, on a fermé le bureau de communication avec les autres collègues. Je n'avais plus le droit de traiter aucun dossier, mais par contre mes horaires d'arrivée, de partie et de sortie étaient contrôlés. Si je sortais pour fumer une cigarette, j'étais réprimandée tout de suite derrière. Et j'ai tenu comme ça 2 ans et vraiment j'en pouvais plus. Et d'un commun accord avec mon époux, j'ai décidé de demander je suis allée voir une avocate qui m'a demandé de faire un courrier à ma direction en relatant tous les faits. Et à partir de là, tout le monde a voulu me rencontrer, le directeur général, le directeur des ressources humaines, et autres. Et on est parti sur un accord de départ où ils m'ont donné une certaine somme pour que je parte et que je ne fasse pas de poursuite.
Et alors aujourd'hui, donc ça fait maintenant 6 mois, vous nous disiez, c'est ça, que vous cherchez du travail?
Deux ans.
Vous n'avez pas retrouvé de travail. Donc on voit effectivement la difficulté pour vous de vous reconstruire après un tel
complètement.
Un tel épuisement.
Je sors plus de chez moi, honte de voir les copains, je me sens bête aujourd'hui et j'ai l'impression de plus arriver à pouvoir avoir la même motivation pour travailler.
Ouais, vous avez perdu confiance en vous. Merci beaucoup pour votre témoignage, Tatiana. Il y a Philippe Laurent, donc notre coach en entreprise, qui est là et qui a envie de réagir.
Tatiana, j'entends que vous êtes... Vous avez osé finalement vous plaindre à votre management qui n'a pas pris en compte votre démarche et que vous avez été jugé d'un peu, bête d'avoir osé vous plaindre, puisque finalement c'est une chance de s'ennuyer puisque vous êtes payé à rien faire, sans compter que si vous avez un peu de conscience professionnelle, vous avez culpabilisé de cette situation. Alors moi je dirais que l'ennui n'est pas une chance bien entendu, mais que c'est un signal d'alarme dont il faut prendre compte, c'est-à-dire qu'en fait c'est le signe d'une insatisfaction entre votre situation et ce que vous désirez. Et pour moi, je pense que l'ennui, c'est une occasion pour finalement se poser des bonnes questions sur notre travail. Alors je pourrais vous en offrir quelques-unes. D'abord, vous pourriez vous dire, relativement au goût dont je parlais tout à l'heure, de quoi ai-je envie maintenant? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans mon travail actuel? Qu'est-ce qui me nourrit le plus? Quel sens je veux donner à ma vie? Et ces questions que vous voyez sont toutes positives. C'est-à-dire qu'en fait, je veux partir d'une situation qui est une situation de souffrance pour essayer de rebâtir un projet professionnel qui me correspond mieux, qui va dans le sens de ma pente naturelle, c'est-à-dire de ce pourquoi je suis fait. C'est-à-dire que si je m'ennuie dans mon travail actuel, certes, il peut y avoir des raisons qui tiennent au manager, bien entendu, hein, mais il y a aussi une inadéquation entre mon travail et ce pourquoi je suis fait.
Alors, Julie Tripart, peut-être que vous pouvez aussi aider Tatiana, parce que vous avez été dans ce cas, vous nous aviez raconté 40 entretiens en très peu de temps. Donc là, elle a perdu confiance en elle, vous êtes passée aussi par là. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer de se sortir de cette désestime ou mésestime d'elle?
Bonjour Tatiana. Oui, effectivement, quand j'entends votre témoignage, je reconnais beaucoup de ce que j'ai vécu. Moi, je suis partie un petit peu plus tôt que vous, parce que la situation a vraiment dégénéré dans votre cas, et j'en suis désolée. Je trouve que c'est effectivement des situations excessives, et le fait que votre société donc est convenue d'une transaction, donc ça prouve bien que ils étaient pas très à l'aise par rapport à votre situation. Pour revenir sur ce que disait Philippe, effectivement, je trouve que vous, pour à mon avis, mon conseil pour réussir à retrouver un job et reprendre confiance en vous, c'est qu'il faut sortir d'une position de victime et vous dire que vous avez été avant tout actrice de votre sortie de cette société, que finalement le fait que vous ayez eu recours à une transaction, ça prouve que oui, vous avez été victime de quelque chose, vous avez eu le courage d'en sortir aussi.
Oui, c'est une manière d'en sortir de cette
vous
situation.
En êtes sorti, de il y a des personnes qui
enfin il y a quand même scotchées dans cette situation.
Exactement, et puis il y a des cas objectivement vous en avez tous entendu parler comme moi, il y a des cas de suicide sur le lieu de travail, enfin il y a des cas qui vont encore plus loin que ça. Donc le fait d'avoir le courage d'en sortir, d'avoir le courage d'en parler, comme vous êtes en ligne aujourd'hui avec RFI, pour moi c'est extrêmement positif. Après, clairement, la recherche d'emploi, c'est un long parcours du combattant, c'est un deuxième parcours du combattant. Ce qu'il faut, c'est trouver une histoire à raconter qui soit pas mensongère, et ça reprend aussi ce que disait Philippe, c'est raconter une histoire en partant de soi, en partant de ses envies, en partant de ce qui convenait moins bien dans son précédent travail versus ce qui convenait aussi. Essayer aussi de retrouver des choses positives dans cette précédente expérience, c'est important, parce que c'est aussi quelque chose qui vous a construit professionnellement et personnellement. Et puis derrière cette histoire-là, la raconter à des proches, la raconter à des gens avec qui vous avez travaillé, qui vous connaissent bien, qui pourront aussi vous faire un retour par rapport à ce qu'ils connaissent de vous professionnellement et personnellement, ou l'enrichir avec ce qu'ils apprécient chez vous. Puis alors vous verrez, ces feedbacks sont assez, non seulement enrichissants par rapport à un discours, mais aussi enrichissants personnellement, parce que c'est toujours bon d'entendre ce que les autres pensent de soi, surtout quand c'est des bonnes choses. Et puis derrière, ça vous permettra d'être beaucoup plus pertinente en entretien, parce qu'évidemment, en entretien de recrutement, c'est pas possible d'arriver en racontant cette histoire de « on a été victime, et puis mon Dieu, j'ai été mise au placard, etc. » Après, les 2 ans de manque d'activité, je précise juste cette chose-là, ça, vous pouvez aussi l'expliquer. Moi, je conseille, c'est toujours d'avoir des activités à côté, de profiter pour faire des formations. Les 2 ans d'inactivité, ça peut aussi être justifié, ça peut aussi être expliqué, ça peut aussi être enrichi d'expériences qui sont derrière valorisantes.
Alors, Christian Bourion, vous êtes toujours en ligne avec nous.
Oui.
Comme on l'entend là chez Tatiana, on sent effectivement une grande souffrance au travail.
Oui.
Est-ce que cette souffrance, aujourd'hui, elle est, par exemple, reconnue dans les entreprises ?
Non, non, non. Non, parce que vous avez un affaiblissement général, si vous voulez, d'un télétravail qui va se produire, en tout cas, sur les postes qui ne sont pas des postes de très haut niveau. Et pour les fonctionnaires, c'est un tout petit peu plus facile, parce qu'il y a ce qu'on appelle la mise en disponibilité. Un fonctionnaire a la possibilité, dans la situation qui vient d'être évoquée, de se demander sa mise en disponibilité, et il peut revenir, on est obligé de le reprendre. Alors, dans les cas que j'ai eus, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et qui se sont rendus compte que c'était beaucoup plus mal ailleurs. Et que quelque part, c'était le décalage entre ce que eux souhaitaient, leur niveau d'exigence, et ce que pouvait leur fournir donc l'entreprise qui était en cause. C'était pas vraiment l'entreprise. C'était que le travail avait changé, il était devenu beaucoup moins intéressant.
Mais il y a quand même un problème de fond sur le burn-out. Là, on entend de la souffrance des gens au travail. Mais il y a aussi un problème du système. Ça veut dire que le système n'est pas capable d'être assez flexible pour donner du travail à des gens qu'elle a recrutés. Il y a quand même un vrai problème de productivité derrière tout ça. On perd de l'argent.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, mais on en perd moins qu'en allant, si vous voulez, qu'en allant au prud'homme, quoi. Oui, il y a un problème de fond, il y a une transformation profonde de la société, parce qu'actuellement on est à 30%, mais il y a de fortes chances que ça ne s'arrête pas là, parce que le phénomène, avant qu'il soit reconnu, c'est-à-dire qu'on libère le droit du travail pour donner il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, 30 ans, 35 ans, on perdait un travail à 18h, on en trouvait un autre le lendemain matin à 8h, c'est fini ça.
Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même les gens qui sont victimes du burn-out restent, s'enferment un peu parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver du travail, du coup ils restent enlisés dans la situation.
Il y a un phénomène de déqualification, si vous voulez. On dit qu'on fait un travail, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est le travail qui nous fabrique. C'est la relation qui nous fabrique, qu'on apprend en permanence. La personne qui va se trouver, si vous voulez, sans rien faire, que ce soit au chômage, en recherche d'emploi ou en burn-out, est une personne qui apprend à ne rien faire. Et elle l'a dit tout à l'heure, elle a dit, j'avais du mal à m'y remettre. C'est que quelque part, on va rationaliser la situation, et c'est pour ça qu'on peut dire, dans une certaine mesure, on va devenir fou. C'est-à-dire que le cerveau va commencer à nous produire, si vous voulez, des idées qui sont des idées complètement déformées, qui sont fausses. Oui, finalement, c'est pas si mal que ça, te plains pas. Et puis, à un moment, on ne voit plus le moyen d'en sortir. Et il y a un effet dépressif aussi, qui fait que le moindre petit truc à faire semble être colossal. Et
c'est une montagne à ce moment-là à avaler, à partir du moment où on se retrouve avec des activités. Alors on va écouter Poulo aussi, qui nous appelle de Dakar et qui est aussi concerné. Bonjour Poulo.
Bonjour, c'est Sandrine.
Oui, merci de témoigner sur l'antenne de RFI, on vous écoute.
Oui, là où je travaille, j'avais une copine il y a pendant 4 ans, on ne lui donnait pas de travail. Elle n'avait même pas de patron, donc elle était là tout le matin, elle rentrait le soir. elle tournait les pouces, elle n'avait rien à faire, elle s'ennuyait. Tout ça fait tuer la personne psychologiquement et moralement.
Donc c'était une collègue à vous, c'est ça, qui était secrétaire?
Oui, elle était secrétaire, mais vraiment, je l'ai vraiment piqué d'elle parce qu'elle s'occupait aussi des détails et de me déranger dans le bureau. Je passais tout son temps à discuter de sa vie privée, tout. Que ça m'intéressait même pas.
Ah oui, comme elle n'avait rien à faire, elle allait effectivement solliciter les autres pour passer le temps.
Oui, c'est ça.
Oui, donc ça, moi, ça perturbe aussi normal. L'organisation tout autour, c'est ça? C'est ce que vous nous dites?
Oui, c'est ça, elle s'occupait des détails. Moi, ça m'a fait mal pendant des années.
Donc elle s'ennuyait au travail et du coup elle ennuyait les autres aussi avec ses histoires, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Poulo pour votre témoignage. Effectivement, est-ce qu'il y a ça contamine alors l'organisation, la structure autour d'avoir des gens comme ça, Philippe Laurent, qui effectivement s'ennuie.
En fait, je pense que l'abattement qui est en fait la conséquence de l'ennui sur la personne a un triple impact. Au niveau de l'entreprise, d'abord, c'est que ça a un impact au niveau de la performance du travail. Il est évident, quand on s'ennuie, on est assez peu productif. Il y a aussi un impact, évidemment, sur l'équipe, qui fait que quelqu'un qui s'ennuie va déteindre sur l'équipe. Et puis, le plus important, c'est l'abattement sur la personne. Et moi, je pense que, comme c'est finalement la survie de la personne qui est en jeu, je pense qu'il y a une stratégie qui peut être adaptée à certains moments, adoptée. C'est, je pense, d'abord de travailler avec une attention accrue, c'est-à-dire d'être présent à ce qu'on fait. Parce que l'ennui est beaucoup dans le mental.
Pour épaissir le temps qu'on passe en entreprise,
en fait, c'est pour éviter. Non, c'est pour éviter de ruminer l'ennui. Parce que quand je rumine l'ennui, je m'ennuie encore plus. Et donc, le être plus réaliste à ce que je fais, même si le travail que je fais est un travail ennuyeux en soi. Et je pense que dans tout travail, il y a une partie ennuyeuse.
Est-ce qu'il faut faire la différence entre avoir un travail ennuyeux et l'ennui au travail? C'est pas la même chose.
Mais je pense que dans tout travail, si vous voulez, même un travail de passion, je pense qu'il y a une partie qui est un peu ennuyeuse. C'est-à-dire que même un pianiste professionnel de grand talent va bien reconnaître que faire des gammes, il y a quelque chose d'ennuyeux. Il y a aussi une routine. Et je pense que la première chose, c'est de développer cette attention au réel. Ensuite, je pense qu'il y a autre chose, c'est de trouver le moyen de compenser l'ennui au travail par un ressourcement extérieur. Et ce ressourcement extérieur peut venir soit d'une activité que je vais mener comme sportif, soit avec mes amis, avec ma famille, avec un engagement social, soit en faisant quelque chose qui me met en contact avec la matière, que ce soit du jardin, du bricolage, quelque chose comme ça, qui finalement va me ressourcer. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'ennui? C'est qu'en fait, je ne me ressource plus.
Mais ça, c'est un discours qu'on peut entendre assez souvent chez des salariés, en disant, moi, de toute façon, je fais ce travail pour gagner de l'argent, et après, la vraie vie, c'est en dehors. Enfin, la vraie vie, ce qui me plaît, ça se passe en dehors. Il n'y a pas forcément une fusion entre l'épanouissement et le travail.
Ouais, oui, alors, moi, je voulais juste revenir là-dessus. Effectivement, moi, j'avais ces activités parallèlement dont vous parliez, notamment, voilà, moi, j'allais nager tous les midis, donc ça me faisait un bien fou, ça me détendait. Pour autant, par rapport à ce que vous disiez au début d'émission, le problème du sens se posait quand même. Le problème du sens de mon travail, du sens de ma vie. Et quand on a été, alors là c'est valable pour certains cadres. Alors moi j'ai fait des études supérieures où on nous encourageait à l'excellence toujours. Et du coup un environnement, un réseau professionnel aussi où c'était la course à l'excellence, c'est la course au meilleur job, c'est la course aux carrières un peu fulgurantes, etc. Et quand vous avez un job où vous voyez pas le sens, ou certes c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une coquille vide, où vous sentez, vous avez l'impression que vous perdez en compétences au fur et à mesure, que c'est un peu une régression intellectuelle parce que
vous desséchez sur place.
Du coup, même si vous cherchez, vous trouvez des stratégies un peu d'évitement par rapport à cette situation, et puis d'essayer de trouver des ressources aussi à l'extérieur qui vous permettent de pas complètement craquer et de tenir physiquement aussi, parce que ça devient physique à un moment donné, le stress, on n'a pas trop parlé des
conséquences. Oui, mais justement, quelles sont les conséquences sur la santé? On va continuer sur l'ennui au travail après Beautiful de Michel Gondry, c'est le réalisateur, mais il chante aussi, il n'a pas le temps de s'ennuyer. I don't
je ne sais quoi. Je vous vois bien me désirer, à vouloir tant me tutoyer. Je vous vois là et m'indiffère, pour calmer votre esprit fier. Je fais semblant de ne vouloir guère, mais pour être franche, je devrais me taire. Les voisins, les voisines, on lève le tabou de l'ennui au travail avec Julie Tripa, qui est consultante dans le cabinet de recrutement Clémentine. Également avec nous Philippe Laurent, coach en entreprise, spécialiste du bonheur au travail. Et Christian Bourion, toujours avec nous au téléphone. On le disait pendant le disque aussi, il y a quand même des gens aussi qui ne travaillent pas, qui foutent rien, il faut le dire comme ça, et qui ne s'ennuient pas.
Exact.
Hein? Oui, Christian Bourion, vous en avez rencontré aussi des comme ça?
Oui, mais en général, c'est plus une opinion extérieure. C'est-à-dire que ces gens disent, mais quoi? Mais t'as un boulot et tu fous rien, et en plus tu viens nous embêter à te plaindre. C'est-à-dire que c'est une vision extérieure. Quand les personnes sont vraiment projetées dedans et qui sont dedans, ils en souffrent. Ceci dit, il existe des gens, mais c'est une forme de perversion, qui ont appris... Ou qui avait des aptitudes au départ, je sais pas, hein, à se contenter de rythmes très lents, de très peu de travail, d'arriver en avance, de partir en retard, etc.
Alors, oui, ça existe. Et quels sont les symptômes, effectivement,
si vous voulez, oui, très peu de choses.
Ouais. Les conséquences sur la santé, c'est vrai que pendant cette période-là...
Oui, il y a une étude anglaise qui montre que le risque cardiovasculaire est multiplié par je sais plus combien. À partir du moment où on fait rien... Si vous voulez, on peut comparer ça à une voiture. Si vous avez un véhicule et qui ne roule pas du tout, et vous le prenez au bout d'un an, tout est cassé dedans. Tout a rouillé, tout est bloqué. Mais c'est un peu la même chose, le cerveau, et dans une certaine mesure aussi le corps.
Alors on avait un auditeur aussi qui s'appelle Wirl et qu'on n'arrive pas à voir en ligne. Il voulait témoigner aussi parce que maintenant il était informaticien développeur. Il est assis 9 heures par jour devant son écran. Il a des grands moments de creux et donc il se distrait en allant sur Twitter et Facebook. Et c'est aussi comme ça qu'il a vu le sujet du jour aujourd'hui annoncé donc sur Twitter. Du coup, Internet prend aussi beaucoup de place dans ces moments-là.
Tout à fait. Par rapport au témoignage de tout à l'heure, à savoir la dame qui avait besoin de discuter, de parler de soi. Bon, c'est vrai que la plupart, si vous voulez, des gens qui sont au bord à haute le disent. J'essaie d'occuper le temps en parlant avec les collègues. Mais le collègue qui a plein de boulot, ça l'intéresse pas du tout. Ça lui fait perdre son temps. Donc, tchatcher sur Internet, c'est plus facile et ça embête personne.
Est-ce que le syndrome d'épuisement professionnel, le syndrome d'épuisement professionnel qu'on nomme le bore-out, est-ce que c'est les mêmes symptômes aussi que le burn-out, par exemple, Philippe Laurent?
Moi, je pense que c'est pas du tout la même chose. Le burn-out, c'est un feu intérieur qui provient en général, du surmenage, d'une suractivité. Et en fait, d'un épuisement professionnel, c'est-à-dire que je me donne, mais sans me ressourcer.
Et l'ennui, vous expliquiez aussi que c'était un manque de ressourcement.
C'est aussi un manque de ressourcement, mais je dirais que se ressourcer, c'est un remède aussi à l'ennui. Et le point commun entre l'ennui et puis le burn-out, je dirais que c'est l'abattement. Les deux nous abattent. Mais un, c'est par, je dirais, manque de dynamique et manque d'activité, et l'autre c'est par un trop plein d'activité, c'est-à-dire qu'on a tout donné et sans se recharger. Vous savez, c'est la personne qui est sur l'autoroute et qui passe devant la station-service sans faire le plein, et elle tombe en panne sèche au milieu. C'est le burn-out.
Oui, et le bore-out, est-ce qu'il est en passe d'être reconnu comme une maladie professionnelle, par exemple, Judith Tripart, est-ce que vous suivez ça?
Oui, je suis. Je crois que c'est quand ça va être compliqué. Hein. Ça a déjà été compliqué pour le burn-out, ce sera encore plus compliqué pour le bore-out. Mais je crois que en revanche, les médecins du travail sont sensibles à ça. Enfin, le médecin du travail, c'est un interlocuteur, je pense, qui est intéressant, parce que malgré tout, on parle beaucoup de stress au travail. On devient de plus en plus conscient des risques psychosociaux. C'est des sujets. Il y a aussi beaucoup de sociétés, de sociétés et de services qui se montent autour de ça. On voit beaucoup de gens, notamment des médecins aussi, qui se mettent sur le sujet du stress au travail, qui proposent des choses liées à l'acupuncture, notamment des choses comme ça, qui sont des et certains responsables ressources humaines rentrent hein, de, dans qui s'attaque aussi de front à ces sujets-là. Et
en tout cas, ne pas rester enfermé avec ça, ouais, effectivement, exactement. Parler aux médecins, aux collègues.
Médecins du travail, je pense que c'est un bon interlocuteur, le CHSCT aussi.
Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur l'ennui au travail. Merci à vous, Judith Tripart, donc consultante dans le cabinet de recrutement Clémentine. Merci à Christian Bourion, qui était au téléphone avec nous en direct, professeur à l'ICN Business School et rédacteur en chef du RIPCO. Vous avez publié une étude dans la revue internationale de physiologie, de psychologie et de gestion des comportements organisationnels. Et Philippe Laurent, donc coach en entreprise et formateur en management spécialisé du bonheur au travail. Vous avez publié Le bonheur au travail, partition pour une fourmi aux éditions du siècle, et vous êtes le fondateur du cabinet Project Coaching Associé. Merci à tous les voisins, les voisines pour vos messages. Demain, on se retrouve sur la remise scolaire. Oui, pendant les vacances, on s'y remet.